troisième volet de la prière, c'est qu'il faut se lever, prendre autorité sur les forces contraires. Il faut proclamer la défaite des forces contraires parce que il y a toujours des forces d'opposition qui se présentent dans les saisons d'enfantement et des très fortes forces contraires. Alors il faut se lever par rapport à ça. Nous avons deux aspects particuliers de ce combat que nous devons mener dans les périodes d'enfantement. Jérémie 4, 31 nous dit cela. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme au travail, des cris d'angoisse, d'inquiétude, comme dans le premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Oh. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je succombe sous des meurtriers. Oh. Quand nous lisons un peu plus haut, quelque part, nous avons vu aussi, oui, que l'angoisse et l'inquiétude étaient deux facteurs qui accompagnaient beaucoup les périodes d'enfantement. On a vu quand on étudiait la biche tout à l'heure que ce sont des périodes où sont énormément traduits l'angoisse et l'inquiétude qui l'anime. Elle est particulièrement couverte dans ça. Elle s'isole pour ça et elle est vraiment dans cette angoisse-là. Et maintenant encore, Jérémie nous traduit cela par rapport à la fille de Sion. Dans la même lignée, nous allons étudier, nous allons analyser cela typiquement sur le plan physique, le plan du fonctionnement de notre corps, du corps humain. Nous allons essayer de rattacher ça à un enfantement naturel pour voir vraiment l'impact de l'angoisse et de l'inquiétude dont parle la Bible. Quand on dit que les filles de Sion qui étaient dans l'angoisse et dans l'inquiétude, elles étaient presque en pleurs, on les considère comme étant des malheureuses parce qu'elles s'écrient. Non, ça veut dire que ça a quelque chose d'important. Sur le plan physiologique du fonctionnement de notre corps de façon globale, nous savons que notre corps répond à des stimuli qui peuvent être internes ou externes. Et en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes, de ce que nous ressentons, de ce que nous voyons, de ce que nous avons mangé, de ce que nous sommes en train de faire, de poser comme acte, ça a un impact. Ça se traduit dans la fonctionnalité de notre corps. Par exemple, quand nous décidons de faire de l'exercice physique, du sport, voilà, et ça déclenche en nous, dans notre corps humain, un processus de production d'hormones, d'une hormone particulière, qui est une hormone d'effort particulière, qui est de l'adrénaline. Et l'adrénaline, à son tour, va avoir des propriétés spécifique et va agir comme ça sur nos artères, c'est-à-dire les tuyaux qui conduisent le sang, sur le muscle cardiaque, et elle va avoir une répercussion sur le rythme cardiaque ou sur la fluidité, la circulation du sang dans notre organisme, et ça va se répercuter sur l'ensemble du fonctionnement de notre système cardiaque et de l'ensemble des fonctionnements de notre système. Pour ne citer que cet aspect-là, c'est pour ça en fait que les médecins disent lorsque tu as un problème de cœur, tu demandes de faire de l'effort, de faire de l'exercice physique parce que sa conséquence sur l'organisme va avoir des effets bénéfiques sur le fonctionnement de ton cœur et va sûrement ajuster le défaut, la défaillance qui s'y prête. C'est pareil aussi, de la même façon pour prendre un effet antagoniste à l'opposé, c'est pareil aussi quand on décide de dormir, quand on décide d'aller dormir, il se passe quelque chose dans notre corps. Ça déclenche un processus dans la sécrétion des hormones, une hormone particulière qu'on appelle la sérotonine, et qui a plutôt un effet sur l'organisme qui est un effet de relâchement. C'est un effet qui tend à relâcher les muscles, qui tend à faire fonctionner les choses de façon plus lente, qui tend plutôt à induire comme ça dans notre organisme un processus plutôt de fatigue, plutôt que de l'effort par rapport à l'adrénaline, qui tend à nous mettre dans un état de découragement plutôt que d'encouragement, dans un état de lassitude plutôt que d'effort. Voilà, donc ça pour citer que ces deux hormones, donc ce sont des situations dans lesquelles nous sommes. Et dans l'état particulier que nous étudions en ce moment, qui est un état d'enfantement, Il y a quelque chose qui doit attirer notre attention, c'est que lorsque l'on est quand une femme est en train d'accoucher spécifiquement, elle est dans un effort. Généralement, au-delà de la douleur qu'elle est en train de ressentir, on lui dit pousse, il faut pousser. Elle ne ressent que ce besoin, celui de pousser, alors qu'elle a, elle est vraiment dans une douleur terrible. Donc, le processus naturel, le processus physiologique que la création induit spécifiquement dans la femme à ce moment-là, c'est que ce sont des hormones. L'adrénaline, bien en amont, a déclenché un processus de production d'hormones. Et il y a une hormone particulière qui est stimulée à ce moment, que l'on appelle l'ocytocine, et qui a la particularité d'être en abondance à ce moment, et qui stimule les muscles dans leur contraction. Le muscle utérin est pris en trappe comme ça, et il n'a qu'une seule chose, se contracter, se relâcher deux minutes, mais se recontracter encore, parce qu'il y a une seule fonction qui doit être mise en œuvre, c'est la fonction d'expulsion. Et c'est ça, c'est ce processus qui est en cours lors de l'accouchement normal pour pouvoir évacuer de l'utérus son contenant. Mais la parole ici nous interpelle et nous dit que pendant ces moments d'accouchement, le sentiment que la biche ressentait tout à l'heure, qui est l'angoisse et l'inquiétude, ou que la fille, si on ressent d'angoisse et d'inquiétude, vient pour apporter un effet contraire, un effet contradictoire. Quand j'ai commencé cette partie, j'ai dit, nous allons nous lever pour vraiment nous opposer aux forces contraires. Parce que l'angoisse est un sentiment. L'angoisse est un sentiment qui lui induit, qui est un sentiment qui découle véritablement de la sérotonine en amont, qui lui apporte plutôt un effet de relâchement. Vous imaginez quand vient se mettre dans un processus d'accouchement l'angoisse et l'inquiétude, et que les hormones qui sont produites conduisent plutôt à relâcher le muscle. Donc pendant qu'il faut pousser, le muscle est bloqué et le muscle est plutôt dans un état de non, je me laisse aller, je me laisse couler, je ne contracte pas. Et s'il ne contracte pas, il n'y a pas d'expulsion. Donc si le muscle est relâché, les efforts sont vains et ce bébé va rester en souffrance dans l'utérus et ça peut conduire à la mort, à l'étouffement du bébé. Donc, moi, l'esprit m'a rappelé à ça pour que je me souvienne. Oui, ça c'est aussi mes connaissances scientifiques de par mon métier de pharmacien. Oui, mais que je vous excuse, que je vous expose, pardon, que je vous explique parce que ça m'a permis de comprendre à quel point l'ennemi peut être vicieux. Parce que l'angoisse et l'inquiétude, c'est l'œuvre de l'ennemi dans ces moments particuliers pour pouvoir vous empêcher de pouvoir expulser, de pouvoir enfanter, pour pouvoir empêcher ce qui est en vous de pouvoir prendre. Moi, je peux ramener ça sur le plan purement spirituel et je mets l'angoisse et tout sur toutes les peurs. Parce que pour prendre comme mon expérience, pour en arriver aujourd'hui au moment de l'accouchement, c'est un processus. Il y a eu des périodes qui ont duré des mois où je me suis interrogée, est-ce que c'est nécessaire, qu'est-ce que les gens vont penser, vraiment, est-ce que moi je vais attendre que telle personne, telle autre puisse me donner un avis favorable ou positif, etc., etc. Ça, ce sont des pensées d'angoisse, ce sont des pensées de fausse inquiétude qui t'amènent à pouvoir différer le ton du désir de ton enfantement et qui n'a que pour but de pouvoir étouffer ce fœtus en toi, étouffer ce bébé en toi. Parce que c'est vraiment un effet de l'angoisse dans le relâchement de l'effort de pousser. Oh Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, que le temps soit venu de m'éclairer comme ça sur ça, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, et de renverser ces forces de ce sentiment d'angoisse et d'inquiétude, et de déraciner cela en moi, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour chasser déjà l'angoisse et l'inquiétude. Je prie maintenant, Père éternel, pour que l'angoisse et l'inquiétude ne fassent pas partie de mes préoccupations. Non, je veux me libérer de cela dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, je veux accoucher comme la biche, le fond au Père éternel, quelque chose, Seigneur, sur laquelle tu vas mettre ta main et que tu vas élever au Père éternel. Je ne veux ni angoisse, je ne veux ni inquiétude, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. Oui, Seigneur, viens à mon secours, car cette angoisse veut m'envahir et elle ne m'envahira pas. Viens à mon secours, ô Père éternel. Dans ta parole, tu me dis, Seigneur, 6 fois, tu me délivreras de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne m'atteindra pas. Je crois en ta parole, Père éternel. Et je crie, Seigneur, que cette angoisse ne m'atteigne pas dans le nom puissant de Jésus. Que cette inquiétude ne m'atteigne pas dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, car tu m'en délivres. Tu m'en délivres et tu m'en délivres dans le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. Proverbe nous dit, l'inquiétude est dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Je ne veux point être abattu par l'inquiétude, car qui de nous, à part ses inquiétudes, a jeté une coulée à la durée de sa vie? C'est ta parole qui le dit. À quoi me serviraient les inquiétudes maintenant? Je veux évoluer dans l'assurance, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, remplis mon cœur d'assurance et déracine toute inquiétude, annule toute inquiétude dans le nom puissant de Jésus. Oui, merci Seigneur. Merci car tu me dis en cette saison, bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Tu seras affermé par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur de cette saison. En cette saison de la, en cette parole de l'année que tu me donnes, ô Père éternel. Merci, ô Père éternel. Ce que tu m'affirmes, Seigneur de Père de Puissance, en Isaïe 54. Tu me dis bannis. Bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. En cette saison d'enfantement, je proclame que ni l'angoisse, ni l'inquiétude ne s'approcheront de moi, ni la frayeur au Père éternel. La deuxième partie du verset de Jérémie 4, 31 nous dit, c'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je suis, je succombe sous les meurtriers. Nous allons nous attaquer à ce volet de meurtrier particulièrement, mes frères et sœurs. Parce que ce sont véritablement des forces qui veulent tuer en vous le bébé qui veut naître, qui veulent tuer en vous votre capacité d'enfantement. Les meurtriers, c'est ces religieux-là, c'est ces pharisiens, c'est ces personnes qui, dans le corps du Christ, de naître en guillemets, etc., sont encore restés complètement sous la loi et ne sont pas encore dans l'expérimentation globale de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, de notre Seigneur Jésus, et qui sont toujours poussés à canaliser les gens dans les dogmes et dans un archaïsme de foi. Ils sont toujours en train de demander, oui, mais est-ce que les femmes ont le ministère? Oui, mais est-ce que tu peux prêcher? Oui, mais comment tu peux parler de ta vision? Comment tu peux parler de ce genre de choses? Et qui veulent maintenir les gens dans un carcan où tu te demandes où est Jésus-Christ. J'ai envie de dire, de répondre à ces religieux-là ceci, parce que tout ce qu'ils disent là sont de nature à t'amener au découragement, sont de nature à te faire te poser des questions, à te demander même si tu as presque le droit d'évoquer le nom de Jésus. J'ai envie de leur dire véritablement que là nous parlons d'un enfantement spirituel et que ce qui est même de nous doit être en esprit. Notre Seigneur Dieu a dit que lui ne traite qu'avec ceux qui viennent à lui, en esprit, en vérité, et que l'esprit n'est pas une question d'homme ou de femme. Ça n'a absolument rien à voir. Et Jésus a dit, il se viendra sur vous, sur chacune des personnes, des créatures de Dieu. Il n'a pas dit, il se viendra sur les hommes et les femmes regarderont. Il se viendra sur vous un esprit qui va vous amener à faire des choses. Et il a dit, allez, en disant à tous, allez aux extrémités du monde. Il n'a pas dit, les hommes vont aller et les femmes vont suivre ou les attendre à la maison. J'ai envie de les interpeller pour dire, chacun dit, Jésus a dit, chacun me suit, quiconque croit, quiconque croit, et on n'a pas fait une différence là entre les femmes et les hommes, quiconque croit est appelé enfant de Dieu, quiconque croit est baptisé, confesse mon nom, est sauvé. Et quiconque croit en moi, devient mon disciple, me suit, et met en pratique les commandements de l'Éternel, de mon Père, celui qui m'a envoyé. Alors j'ai envie de dire, ces religieux là, vous ne tuerez pas ma vision. Vous ne tuerez pas en moi ce que le dépôt que l'Éternel a déposé en moi. Il grandit en moi et il va être en santé et il va vivre et il va contribuer au développement du corps de Christ et à l'établissement du royaume de Dieu. Oui, mes frères, mes sœurs, méditez sur ce que je vous dis là. Les deuxièmes catégories de meurtriers que j'ai envie de citer ici, ce sont ces mauvais tuteurs, les mauvais régents de ta vie, les mauvais parents spirituels, parce qu'il y en a, mes frères et mes sœurs. Il y en a qui font les choses, comme j'ai expliqué tout à l'heure en parlant de ce que l'on appelle les biches, qui sont vraiment des serviteurs de Dieu, qui sont des disciples, qui ont en eux un amour, une charité véritable pour faire croître. Paul dit aux Galates, moi j'ai vraiment les douleurs de l'enfantement pour que Christ se forme en vous. Ça, ce sont des bons pères spirituels. Il y en a, mes frères et mes sœurs. Mais il y a des mauvais pères spirituels. Il y a des mauvais tuteurs. Il y a des mauvaises régions dans la vie. Vous croisez la vie comme ça de certaines personnes qui sont vos prédécesseurs, qui vont vous, qui vous ont même amené à la foi et qui exercent sur vous une force qui soit de nature plutôt à tuer en vous la semence de père. Et qui n'aspire pas véritablement à ce que vous vous épanouissez en Christ, à ce que vous devenez des fils, que vous grandissez pour prendre votre alliance à Jésus-Christ. Non. Et quelque part au fond de eux, ils veulent absolument vous maintenir dans une position d'enfant et d'exercer sur vous, consciemment ou inconsciemment, peu importe, un aspect de régence. Parce que tant que tu es l'héritier des mères enfants, comme la parole le dit, il est un esclave. Et c'est bien ces bénédictions, tout ce que l'Éternel porte, sans sous-gérance. Il y a des pères spirituels comme ça. Et ces pères spirituels, dans leur attitude, non, il faut attendre, voilà, est-ce que véritablement on a dit ceci, on a dit cela, est-ce que... Alors qu'il devait t'apporter la semence, la parole, juste partager avec toi, t'encourager à travailler, t'encourager à aller chercher la face de Dieu, te pousser plutôt et t'encourager dans ce sens. Non, il faut que ce soit plutôt des barrières de limitation qu'il te met. Et qui vraiment, il a un plaisir à te voir, en fait, demeurer une terre rocailleuse, une terre pleine de ronces, et qui, parce que ces terres-là sont inaptes à l'ensemencement. Quand tu es comme ça, nous avons vu avec la parabole de Jésus du semeur, quand il nous dit que le royaume de Dieu est comme un semeur, quand il lance la semence, elle tombe au bord du chemin, elle tombe sur une terre fort rocailleuse, et tombe sur une terre pleine de ronces. Il y a des pères spirituels qui aiment que leurs enfants aient beaucoup de problèmes, qui viennent tout le temps se plaindre à leur niveau en disant oui, j'ai encore eu tel problème, je suis tiraillé comme ça, vraiment, je suis dans les difficultés, je suis dans ceci ou dans cela. Ça leur plaît parce que ça leur donne une aura de celui qui s'occupe de celui qu'on vient voir. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Jésus a confié à certains, nous confie à nous-mêmes, qui sommes disciples, pour ce qu'il va nous donner demain, pour que nous puissions, dans le travail que nous faisons, leur apporter véritablement dans l'amour et dans la charité, dans la bonté, dans l'éveil, dans le jeûne, leur apporter de la nourriture véritable pour qu'ils grandissent, du lait d'abord et progressivement de la nourriture solide pour qu'ils soient véritablement eux-mêmes arrivent à un stade de fils où ils n'auront plus besoin même du père spirituel parce qu'ils seront eux-mêmes devenus des pères pour ceux qui vont enfanter. Ah! Mes frères et mes sœurs, Il faut se méfier de ça. Si vous êtes sous l'emprise de parents qui se comportent comme ça, fuyez! 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 La troisième catégorie de meurtriers, c'est ces interdits-là. Vous pouvez être dans des pays, c'est l'ensemble de ces lois, de ces règles, de ces interdits qui empêchent la manifestation de votre foi. On dit dans ce pays, oui, on ne prie pas dans ce pays, oui, on empêche les églises, on empêche les hommes de Dieu, on empêche ceci, etc. Et on devient timoré, on devient refroidi complètement. Ah non, on ne dit pas ceci. Toutes ces lois et ces carcans qui t'amènent à cacher Jésus dans ta vie, qui t'amènent à dissimuler ta véritable nature en Christ, qui t'amènent à dire non, tu sais, si tu dis que il faut pas mettre ça sur Internet parce que si les recruteurs voient que tu as la foi et tout, ça va être un handicap pour toi. Si. Je dis ces règles-là, mes frères, mes sœurs, quel que soit le pays dans lequel tu es, ce sont des meurtriers de l'enfantement. Oui. Il faut arriver à un moment où tu es conscient de ta position en Jésus-Christ et tu sais que de toute façon, rien de ce que tu peux bâtir, si ce n'est pas planté en Jésus-Christ, ce n'est pas pérenne, ça ne va nulle part. Alors, il faut arriver à un stade où tu es convaincu que c'est même parce que ils verront que tu es conduit par un Esprit puissant, que tu te positionnes en Jésus-Christ, que tu peux leur apporter quelque chose. Dans tous les cas, ce positionnement-là est profitable. Pourquoi? Parce que dans ce positionnement, c'est l'Esprit de Dieu qui rentre en ligne de compte. Ce n'est plus tes capacités. Ils pourront te recruter même en tant que n'importe quoi. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va t'amener à être productif, à rayonner de la rayonnance de Christ et à faire voir au travers de leurs yeux que tu es quelqu'un de différent. C'est important. Ça aussi, que tu en sois convaincu, mon frère et ma soeur, que tu laisses grandir ça en toi au point où ça devient la ligne de conduite dans ta vie. Ou quand tu veux discuter avec des personnes, etc., qu'elles soient, où on te dit on est dans un pays qui est laïque, on est pas fan, ça n'empêche pas que tu poses tes positions. Moi, je crois en ceci et c'est ce qui dirige ma vie. Donc, c'est important de positionner ça, mes frères. Mais ne laissez pas les interdits tuer votre position. Notre Seigneur Jésus dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Aïe. Mes frères, mes sœurs, croissons, grandissons, jusqu'à être au niveau où nous n'avons point honte de notre Seigneur Jésus. Nous n'avons point honte de ce qu'il met en nous. Où nous trouvons que même sa présence en nous est une pleine force. Sa présence en nous est un rayonnement sans limite. Oui, mes frères et mes sœurs. Dans ces conditions, nous pouvons enfanter ce qu'il dépose en nous. Le quatrième aspect de meurtrier que je voudrais aborder ici, mes frères et mes sœurs, ce sont ce que j'allais dire, les relations mondaines. C'est ce regard du monde sur toi. Quand il te regarde comme ça, avec des moqueries, avec des dédains, en te disant, ouf, elle était avec nous, regarde ce qu'elle est devenue, ouf, il était avec nous, regarde ce que... Parce que tu as abandonné leur voie pour suivre Jésus-Christ. Mais mes frères, mes sœurs, j'ai envie de dire ceci. Eux, ils regardent à leurs yeux physiques. Ils te voient comme dans un état de dépouillement. Ils te voient parce que tu ne t'intéresses plus aux choses de leur monde, parce que toi tu t'intéresses désormais aux choses du royaume de Dieu. Ils te regardent comme dépouillé, mais c'est parce que leurs yeux ne voient pas ce qui est en toi. Leurs yeux ne voient pas ce qui grandit en toi. Leurs yeux ne voient pas ce qui mature en toi et qui est sur le point d'être enfanté. Leurs yeux ne voient pas ça. Mais l'enfantement justement va permettre à leurs yeux de s'écrier « Waouh !» Parce que ce qui est né de Christ pousse à l'étonnement les yeux du monde. Et c'est ça, oh mes frères et mes sœurs. Parce que souvent, ce regard critique du monde, ces moqueries de tes anciens camarades, des personnes que tu rencontres, peut faire mal, peut toucher profondément et t'amener à être dans la tristesse, à être dans le doute, à être sous toutes les formes de ces sentiments qui sont en réalité de nature à te décourager, qui sont de nature à tuer. Parce que quand tu te mets dans ces états comme ça, dans cet état de honte, dans cet état de remords, de regrets, oh, l'esprit en toi va se mettre tout petit. La parole de Dieu dit quand l'esprit s'éteint, oh, l'esprit se met petit, Jésus se fait tout petit là-bas en bas. Non, mes frères et mes sœurs, ne laissez pas ces critiques, ces moqueries mondaines-là que vous avez abandonnées, ne les laissez pas atteindre votre foi, votre semence. Dites, je suis en Christ, et je suis en Christ, et l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'amène quelque part. Il me fait grandir en grâce et en stature. Il me conduit quelque part. Il fait grandir en moi un énorme enfant. Je vais enfanter de ce fond qui ira sur la montagne. Oh, je vais produire. Je serai la source de quelque chose, d'une essence profonde qui va se répandre et qui va leur apporter même à eux des choses qu'ils n'ont point vues, des choses qui ne sont pas montées à leur oreille, des choses qui n'ont même jamais pensé dans leur cœur, mais qui est le dépôt que l'Éternel a mis en moi. Et qui va être enfanté. Oui, mes frères et mes sœurs, levons-nous vraiment et prions pour éloigner de nous ces meurtriers, dans le nom puissant de Jésus. Oui, mes frères, prions. Prions vraiment. Prenons autorité contre toutes ces forces meurtrières. J'en ai cité quatre, mais il peut en avoir plusieurs. Mes frères et mes sœurs, de ces méchants, de ces meurtriers qui veulent tuer en vous la semence. Christ. Oh Seigneur, je suis à toi, ô Père éternel, et à mon Seigneur Jésus, parce que je t'appartiens, ô Seigneur Dieu, Père. Je me réjouis, Papa, car je ne succomberai pas sous le coup des meurtriers. Je me réjouis, ô Père éternel, car c'est toi, ô Père, la même puissante qui me défend, dans le nom de Jésus. Je ne succomberai pas sous le coup de ces meurtriers, de ces méchants, ô Seigneur Dieu, Père, qui envient et qui convoitent le fruit de mon enfantement, au nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu, Père de puissance. Parce que tu me dis, ô Seigneur, que les sangs courent, Seigneur Dieu, Père de puissance. Oh, ils sont agiles, ô Seigneur Dieu, de miséricorde. Et toi, tu les entraînes, Seigneur, sur la montagne des armées. Tu es Dieu, Seigneur Dieu, de miséricorde. Les méchants et les meurtriers, ô Père éternel. Oh, Seigneur Dieu, Père de puissance, n'atteindront pas le fruit de mon enfantement. Dans le nom puissant de Jésus. Ôte-leur la paix, Papa. Brise-lui leurs bâtons et leurs armes. Oh Seigneur, brise leurs bras meurtriers, oh Seigneur de Père de puissance. Merci, Papa. Que ton feu s'abatte sur eux et consume ces méchants dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel. Oh Seigneur. Le deuxième volet, c'est de se lever et de s'attaquer à ce dragon dévoreur. Apocalypse 12, 4 et les versets suivants. Nous allons lire parce que c'est une phase particulière où la parole de Dieu nous précise, la parole de Dieu nous indique comment le méchant, comment notre adversaire, hein, se dispose pour pouvoir détruire le fruit de notre enfantement. Cette image, ce verset de l'Apocalypse ne sont pas seulement pour l'Ancien Testament. Ça nous augure aussi comment l'ennemi à chaque fois, dans notre vie, dans l'évolution de notre vie courante, agit. Parce que Jésus, notre Seigneur, nous a déjà dit dans ses évangiles qu'il faut que nous prions, que nous soyons sobres, que nous fassions attention. Parce que l'ennemi, lui, il est là. Il rôde, cherche qui dévorer, engloutit, il nous explique comment on engloutit le fruit des entrailles. Et il œuvre comme ça. Nous allons lire ce processus dans Apocalypse 12 et nous allons prier avec ce verset parce que les plans de l'ennemi doivent être renversés au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans Apocalypse 12 ceci. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint, devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Et la femme s'enfuit dans le désert et elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Amen. Et il y eut dans le ciel Michel et les anges combattirent contre Michel et les anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, serpent ancien, appelé le diable Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous, qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Oh. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps. Des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Alléluia. Ce passage est particulier. Et je dis encore, on ne faut pas que nous voyons ça seulement comme des choses qui vont arriver dans la fin des temps. C'est le processus d'action presque régulier de Satan. Il est là, il cherche à nous dépouiller de la grâce que Dieu a mis sur nous. Il est là, il cherche à nous arracher le fruit de nos bénédictions. Il ne se tient pas seulement devant la femme qui est en train d'enfanter. Oui, cette image est prise pour notre Seigneur Jésus, pour montrer l'image de ce que de l'enfantement de Christ qui va venir nous sauver. Mais en projection, nous voyons que notre adversaire, lui, il agit. Vous voyez que dans la lecture, on montre bien qu'il est parti maintenant s'attaquer, fâché de ne pas pouvoir attraper cette femme et fâché de n'avoir pas pu empêcher au Messie d'être là, il s'en va maintenant s'attaquer à ceux qui suivent les commandements de Dieu, à ceux qui mettent sa parole en pratique, c'est-à-dire à vous, à nous, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui marchons avec l'Éternel, nous qui mettons sa parole en pratique. Il vient s'attaquer à nous, et il vient s'attaquer à nous avec les mêmes processus pour dévorer nos biens. Alors nous allons nous lever maintenant et prier de façon à empêcher, à contrecarrer cette langue dans nos vies. Je me lève maintenant et je prends autorité au nom puissant de mon Seigneur Jésus pour empêcher qu'il campe pour se saisir du fruit de mon enfantement. Non, il ne dévorera pas le fruit de mon enfantement. Ce ne sera pas mon don. Ô Père éternel, je me blottis en Jésus-Christ en cette saison. Je me blottis en Jésus-Christ et je me couvre du sang de Jésus. Je couvre le fruit de mes entrailles, le produit de mon enfantement dans le sang de Jésus. Ta parole nous dit que comment est-ce qu'on a vaincu le dragon? Comment est-ce qu'on triomphe du dragon? La parole de Dieu nous dit qu'on a vaincu le dragon. On a vaincu ses forces par le sang de Jésus
et par le témoignage que nous faisons. Oui, je me blottis en Jésus-Christ et je m'asperge encore de son sang. J'asperge le fruit de mes entrailles, du sang de Jésus. Et je témoigne qu'il est mon Seigneur et Sauveur. Et je témoigne que je vis par lui, dans le nom puissant de Jésus. Je témoigne de ma bouche que le salut est là. Mon Seigneur et mon Sauveur est vivant. Je triomphe sur le dragon à cause du sang de l'agneau versé à la croix pour moi. Oui, tu m'as enseigné au Père éternel que tout ce qui vient à la vie est représenté par une étoile dans les cieux et inscrit dans ton livre de vie. Ô Dieu, qu'il en soit ainsi pour tout ce que tu as déposé en moi et qui doit naître. Ô Père éternel, j'enfante, ô Dieu, donne vie, Seigneur, à héritage de royaume. Donne vie au Père éternel au mouvement Estrade. Donne vie au Père éternel à l'association Alvarod. Donne vie, Papa, à Publiarze. Donne vie au Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, à Binet de la Création. Donne vie à Performance au Père éternel, Formation et Consulting. Donne vie à Passage en Jésus-Christ. Oui, Père éternel, donne vie. Que cela, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, soit enfanté au Père éternel. Ô Dieu de gloire. Et que tes anges, Papa, entrent en œuvre et transportent chacun de ces fruits, chacun de ces produits, chacun, Seigneur, de ces enfants, Seigneur, chacune de ces œuvres, qu'ils les transportent jusqu'à ta demeure, Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, à ton abri, ô Dieu de grâce, afin qu'ils soient en sécurité, dans la forteresse que tu es, dans le refuge que tu es, afin que ce soit, ô Père, dans ton repos, Papa, que j'en assure l'intendance. Oui, par la puissance de ton Esprit Saint agissant en moi. Oui, Seigneur, parce que tu dis que celui qui demeure, au Père, à ton abri, repose à l'ombre du puissant. Et toi-même, tu agis, Seigneur, parce que toi-même, ô Seigneur, tu le délivres des filets de l'oiseau. Oui, Père éternel, et tu le couvres. C'est dans cette position de sécurité, c'est dans cette position d'assurance, ô Père éternel, que je veux assurer cette intendance. Parce que par moi-même, je ne peux rien. Saint-Esprit de Dieu, œuvre en moi. Dans le repos de l'Éternel. Dans le repos de mon Seigneur Jésus. Et que tout, Seigneur, ce fruit de l'enfant de moi. Ô Seigneur Dieu Père, te puissant soit déposé entre tes mains. Oui, Père éternel. Lorsque la femme a enfanté au Seigneur Dieu Père, te puissant. Ô, le fruit de son enfantement fut enlevé, Papa. Et remis entre tes mains, là, le nom de Jésus. Seigneur, je prie de la même façon aujourd'hui. Que le fruit de mon enfantement, Seigneur Dieu, Père de plus. Oh, sont enlevés par les anges et remis entre tes mains. Seigneur, car à toi seul j'ai confiance. Et au Père de Saint, à toi je confie toutes choses, au Père. Oh, Père, dans le nom puissant de Jésus. Ce qui n'est pas en Christ, Seigneur, n'est pas périn. Et ce qui n'est pas sous ta protection, Seigneur, est appelé à être détruit. Qu'il n'en soit pas le cas pour le fruit de l'enfantement, de ce que tu m'amènes à enfanter. Dans le nom puissant de Jésus. Ô Seigneur Dieu de miséricorde, que tes anges campent au Seigneur et protègent les Seigneurs de Père en ton sein. Ô Dieu, au nom de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, équipe-moi des deux ailes de grand aigle. Oui, comme cette femme, Papa. Équipe-moi des deux ailes de grand aigle afin que je m'envole, Seigneur, haut et loin de ce dragon ennemi, Seigneur Dieu Père puissant, qui me poursuivra certainement. Oui, afin que j'échappe au fleuve qu'il va lancer. Oh Seigneur, au piège qu'il va tendre, Seigneur de Père Tout-Puissant, et dans lequel il essaye de m'entraîner. Oh Seigneur de Père Tout-Puissant, lui, équipe-moi, Seigneur, que je vole haut au Père éternel, que je vole loin, Seigneur de la miséricorde, et que j'atteigne, Seigneur, le lieu où tu me nourris, où tu m'équipes, Seigneur, pour l'intendance de tes œuvres, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, ô Père, viens à mon secours. Engloutis ce fleuve au nom de Jésus. Ouvre ta gueule et engloutis l'œuvre de l'ennemi. Engloutis ce qu'il va faire. Engloutis tous ses dispositifs. Engloutis tous ses armes qu'il va tailler. Engloutis. Oui, que je m'éloigne, que je l'échappe et que lui-même tombe dans ses propres filets. Qu'il s'en aille loin de moi. Qu'il soit vaincu. Ô Seigneur de Père de puissance. Partout, ô Seigneur, et qu'il s'en aille loin de ton peuple aussi. Partout, il se présentera au nom de Jésus, qu'il soit avec, dans le précieux nom. Oui, Père éternel, telle est la prière, Seigneur, aujourd'hui. Ô Seigneur. pour cet enfantement. Oh Seigneur Dieu, merci. Oh Seigneur, je te remercie. Parce que, en fait, bon, Seigneur Dieu de miséricorde, tu m'as donné le verset d'Ésaïe 54. Comme un credo au Père éternel. Oh Seigneur du Père de puissance, je te dis merci. Parce que tu m'ordonnes de me réjouir. Tu m'ordonnes de me réjouir. Tu me dis, stérile, toi qui n'enfantais plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Oui, Père éternel, merci. Merci parce que joie et allégresse. Dans le précieux nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour toi. Merci Seigneur, merci pour ta vie. Merci au Père éternel pour ton esprit que tu as mis en moi, qui m'a conduit, Seigneur, de faire cette prière. Merci au Père éternel en ce jour, où, Seigneur, les éléments ont déjà été envoyés au Père éternel à ma suite, que tu as suscité, Seigneur, de cette prière, pour finaliser ce jour, Père éternel. Merci au Seigneur, parce que l'enfantement était déjà en route. Oh, merci parce que tu m'as rappelé. Seigneur Dieu, Père de Dieu, suscite mon cœur, Père éternel, pour cette prière, Seigneur, d'enfantement. Oui, Père éternel, je te rends grâce pour toutes choses, Seigneur. Et j'ai la ferme assurance, Père éternel, parce que c'est au nom de mon Seigneur Jésus que je t'ai appelé. Oh, Père éternel, dans un cœur, Père, oh, Père éternel, et je sais, Seigneur, que ce que j'ai demandé, tu me l'accordes, Père éternel, Seigneur Jésus. Tu me bénis, Seigneur Dieu, Père éternel. Oh, Père éternel, je vivrai cet enfantement. Oh, Père éternel, précieux nom de Jésus. Merci, oh Dieu, que toute la gloire te revienne. Merci, Saint-Esprit, glorifions le nom de Jésus. Aujourd'hui et toujours. Oui, merci. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, j'espère que ce temps de prière pourra être bénéfique pour vous aussi. Je partage mon pain, je partage mon intimité avec ceux qui ont faim. C'est l'instruction que j'ai reçue de mon Seigneur. Que ce partage puisse être bénéfique pour vos amis, pour vos temps de prière que vous prenez à adapter à vous-même et à vos circonstances. Mais le cheminement est là. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez dans la paix du Christ, dans sa joie, dans son amour. Au nom puissant de Jésus. Amen.